Matière à penser, Dominique Rousset.
Bonsoir à tous et c'est la suite de notre nouvelle série, la dernière de la saison. Nous l'avons appelée « Tout va très vite », une année d'accélération. Il nous semble que cela concerne plusieurs sujets que nous avons sélectionnés cette semaine. Et nous parlons ce soir de l'épiderme de la Terre. C'est la jolie définition qu'en donne mon invité. Car oui, la petite couche à la surface de notre planète, à l'interface entre la roche et l'atmosphère, le lieu de rencontre du vivant et du minéral, le sol, autrement dit, le sujet est passionnant, il est méconnu. Claire Chenu, mon invité, en est spécialiste. Le sol qui nous porte, nous nourrit, rend possible la croissance des plantes, l'équilibre des écosystèmes terrestres, qui stocke le carbone et qui reçoit l'eau des pluies. Il a aussi bien d'autres fonctions, toutes précieuses et déterminantes pour l'avenir des conditions climatiques. Les sols et la vie qu'ils abritent nous offrent de nombreux biens indispensables, on le verra, à notre survie, à notre bien-être, à condition d'en prendre soin, ce qui n'est pas le cas, ni en zone urbaine, ni en zone rurale, comme on va le voir. Il est grand temps de réagir. Éloge des sols. Bonsoir Claire Chenu.
Bonsoir.
Éloge des sols, en effet, pour reconnaître leur importance. Ce que vous allez faire avec nous, vous enseignez les sciences du sol à AgroParisTech, également à l'INRA, Institut de Recherche Agronomique, une unité de recherche spécialisée justement sur les matières organiques, leur dynamique, les matières organiques des sols, leur dynamique, leur fonction. Et vous avez été, je le signale, ambassadrice spéciale auprès de la FAO, l'Organisation Mondiale pour l'Alimentation et l'Agriculture. C'était en 2015 pour une année internationale des sols. Passé un peu inaperçu, il faut bien le dire. Alors pourquoi les sols, pourquoi cet intérêt de longue date pour ce qui vous concerne?
Alors de longue date pour ce qui me concerne effectivement, et intérêt pour les sols parce qu'ils sont essentiels à nos activités, essentiels à nos sociétés. Vous l'avez dit, c'est dans les sols que s'ancrent les racines des plantes, c'est là qu'elles trouvent l'eau, les éléments nutritifs. Donc nous dépendons des sols pour notre alimentation, mais aussi pour les fibres, le bois. Nous dépendons des sols pour la réserve en eau. La reconstitution des nappes, parce que l'eau, elle arrive sur les sols, soit elle ruisselle, soit elle s'infiltre, elle va pouvoir nourrir les, alimenter les plantes, s'évaporer, soit s'infiltrer vers les nappes. Ce sont les sols qui reçoivent les déchets des écosystèmes, qui en recyclent les éléments, qui permettent d'ailleurs de purifier les eaux. Et puis, c'est un réservoir de biodiversité absolument formidable. Donc, une très, très grande diversité d'organismes qui jouent plein de rôles différents, entre autres celui d'absorber, transformer ou d'émettre des constituants qui sont des gaz à effet de serre.
Alors on va revenir sur tous ces détails, montrer comment on peut intervenir sur les sols avec l'agriculture. On sait les torts que peuvent lui faire les méthodes d'agriculture intensive. On peut voir aussi les promesses éventuelles d'autres formes d'agriculture agroécologique que vous soutenez, je crois. Et puis ce qui se passe également dans les zones avec le foncier, dans les zones bâties, donc évidemment dans les villes, ce qui nous amènera aussi au rôle des politiques important. Petite question quand même, on dit sans cesse, les sols sont épuisés, attention à l'épuisement des sols, on va finir par les perdre, mais un sol ne peut pas mourir, Claire Chenu, rassurez-nous.
Alors on dit parfois que les sols sont morts, alors c'est quelque chose que je reprends souvent, parce qu'en fait il y a, sauf des cas mais vraiment, vraiment extrêmes de sols hyper contaminés, vraiment le site d'une usine, il y a toujours des organismes vivants. Par contre, beaucoup de nos sols agricoles ont beaucoup moins d'organismes et une moins grande diversité d'organismes vivants qu'ils pourraient en avoir. On peut mieux faire.
Ils sont vraiment à la limite de l'épuisement, on peut en parler comme ça.
Ils fonctionnent moins bien, et quand on dit épuisement des sols, alors ça recouvre plusieurs choses, ça recouvre dans des pays, des zones où on fait une agriculture minière, c'est-à-dire qu'on exporte des éléments nutritifs, on n'en rapporte pas. Et puis que dans beaucoup, beaucoup de sols agricoles en particulier, s'appauvrissent en matière organique. Et donc épuisement des sols, c'est ça, c'est l'appauvrissement en éléments nutritifs, appauvrissement en matière organique. Et donc perte de fertilité.
Comment est-ce qu'on peut expliquer justement ce travail de matière organique dans le sol?
Matière organique, c'est... Je travaille dessus et c'est un peu un compartiment intermédiaire. Ben c'est tout ce qui est ou a été vivant, tout ce qui arrive au sol, les racines mortes, la litière en forêt, les résidus de culture, les pailles, les organismes vivants se décomposent. Et matière organique, c'est tout ce qui est en train d'être décomposé avant de revenir à l'atmosphère pour le carbone et de partir dans l'eau pour l'azote, le phosphore.
Ça représente combien de nos besoins nutritionnels si on parle de cette manière des sols? Je veux dire, est-ce que...
Alors on estime que 95% en poids des aliments qu'utilise l'humanité viennent directement ou indirectement des sols.
C'est-à-dire fournis par les produits végétaux,
tout ce qui est à base de produits végétaux, éventuellement pour nourrir des animaux. Mais
Alors parlons peut-être des forêts, c'est quand même un des points sur lesquels il y a le plus de difficultés. On déforeste
on continue énormément. À déforester. On continue à déforester dans de nombreuses zones du monde. Alors ce n'est pas le cas de la France, vous savez peut-être que notre forêt, la forêt en France est en expansion, mais dans beaucoup de zones du monde, voilà, les exemples les plus connus sont l'Amérique du Sud et sont l'Asie. Asie du Sud-Est en particulier.
Notamment Indonésie, je crois.
Alors Indonésie, ce qui se passe en Indonésie, c'est qu'il y a, c'est peut-être surprenant, mais il y a des tourbières. Il y a des tourbières extrêmement importantes en Indonésie. Il y a une végétation naturelle, une forêt naturelle, et elles sont en train d'être défrichées afin d'y installer des plantations de palmiers à huile.
Les fameuses huiles de palme qui sont très contestées. Voilà. Le Brésil également est un souci de préoccupation aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Et pour revenir à l'Indonésie, le souci, un des soucis, c'est que ces tourbières contiennent beaucoup de matière organique. C'est de la matière organique, hein, contiennent beaucoup de carbone. Et lorsqu'on les assèche, lorsqu'on les défriche, ce carbone retourne à l'atmosphère et donc va aggraver l'effet de serre.
Les tourbières, justement, c'est un des premiers lieux qui ont été très cultivés et attaqués en Europe déjà, non ?
Oui. Dans des pays du nord, en Angleterre, en Allemagne et dans les pays scandinaves, depuis longtemps, on a cultivé les sols tourbeux parce qu'ils sont extrêmement riches, retiennent bien l'eau. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui en Indonésie a été fait depuis des siècles en Europe.
Mais on ne peut pas revenir en arrière.
C'est difficile. Il y a encore une grande partie de la production, par exemple, de légumes en Grande-Bretagne a lieu sur des sols de tourbière. Donc, c'est difficile de revenir en arrière. Il y a des travaux sur ce qu'on pourrait cultiver dans des tourbières en remettant en eau. Essayer de combiner activité agricole et préservation de ces écosystèmes très particuliers.
Alors, parlons des sols vivants, donc, hein, puisque vous avez bien expliqué qu'ils ne peuvent quand même pas mourir, mais on peut certes leur faire plus de bien que ce que l'on fait aujourd'hui. Des sols vivants, donc c'est la biodiversité. Quand je parle d'une année d'accélération, je faisais référence aussi à propos des sols, à ces rapports très inquiétants sur la biodiversité qui est quand même en perte vraiment importante.
En perte vraiment très très importante. Oui, il y a eu cette année, il y a pas très longtemps, la publication du rapport de l'IPBES, donc l'équivalent du GIEC. Le GIEC travaille sur le groupement sur le climat pour la biodiversité. Donc ils ont publié le rapport mondial qui est très préoccupant. Alors dans ce rapport qui a été publié cette année, il n'y a pas grand chose sur les sols en fait. Mais l'année dernière a été publié un rapport spécial sur la dégradation des terres. Et puis les rapports par continent. Et là, donc, on s'est intéressé au sol, ça a été documenté et il y a une perte de biodiversité avérée, importante dans les sols de la planète.
Et il faut rappeler, je l'ai découvert en préparant notre entretien, que dans un gramme de terre, ça m'a vraiment impressionné, on peut trouver de l'ordre d'un milliard de bactéries, c'est-à-dire des dizaines de milliers de champignons.
Absolument. Et plein de protozoaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez des paramécies que nous regardions à l'école, en particulier au collège. Oui, il y a d'organismes voilà, qui se trouvent en centaines de milliers par gramme de sol. Il y a un gramme de sol, alors je monte toujours une photo quand je fais des cours, ça tient dans une petite cuillère à café.
Et dans ce gramme de sol, on trouve des vers, des insectes, on trouve... Qu'est-ce que c'est que les protozoaires ?
Protozoaires, alors ce sont les paramécies, les amibes, ce sont des organismes unicellulaires. Tout petits, qui vivent essentiellement en consommant les bactéries et les champignons. Ce sont essentiellement des prédateurs et puis qui broutent aussi.
Des acariens, d'autres animaux.
Alors, on trouve des acariens, on trouve des collemboles, enfin des nématodes qui sont connus à la fois pour des aspects positifs et négatifs. Ce sont des ravageurs des cultures. Voilà, c'est une très très grande diversité. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on utilise depuis longtemps les sols comme réservoir de biodiversité. Par exemple, les champignons produisant des antibiotiques ont été isolés à partir de sols. Et c'est encore un milieu dans lequel
la pénicilline, non, je crois.
Oui, la pénicilline, oui, c'est un champignon du sol qui le produit. Et puis, le glutamate est produit par un micro-organisme du sol, par exemple. Donc, c'est toujours un milieu dans lequel on va chercher des micro-organismes ayant des ressources intéressantes pour produire des molécules d'intérêt, que ce soit pour l'industrie agroalimentaire, pour l'industrie pharmaceutique, dans différents domaines.
Mais ça reste un réservoir important pour de nouvelles molécules, par exemple, dans le domaine de la santé ?
Ah oui, tout à fait. On est loin d'avoir exploré la biodiversité du sol, donc ça reste un réservoir extrêmement important.
Des bactéries qui peuvent... Alors, également des bactéries qui peuvent dégrader aussi des métaux lourds.
Non, on ne peut pas dégrader les métaux lourds parce qu'ils vont toujours rester des métaux. Par contre, on peut dégrader des polluants organiques, des pesticides, des hydrocarbures, différentes molécules organiques peuvent être dégradées. Et effectivement, on cherche à identifier des micro-organismes afin de décontaminer certains sites pollués.
Alors, revenons à l'agriculture. Est-ce que c'est le point principal si l'on fait un peu le pendant milieu urbain, milieu rural? Les sols sont plus menacés d'un côté ou de l'autre ?
Je vais vous dire, ça dépend des régions du monde, mais je pense que globalement, à l'échelle du monde, ce sont les sols agricoles qui sont les plus
affectés.
Ah oui, tout à fait. Affectés par l'érosion, affectés par l'épuisement de leurs éléments nutritifs et de leurs matières organiques, affectés par la salinisation. Oui, ce sont les sols agricoles qui posent problème. Et puis c'est là qu'il y a l'impact le plus direct sur nos activités.
Affectés par l'agriculture intensive, voilà. Enfin, à très haut niveau.
En particulier, oui, affectés par une agriculture minière et puis par des pratiques qui mettent le sol en danger, par exemple, qui le rendent sensible à l'érosion. Laisser le sol nu, c'est le laisser exposé à la pluie, c'est le laisser exposé aux orages, c'est risqué. S'il n'a pas des capacités, une capacité intrinsèque à ce que les particules se tiennent bien entre elles, soient bien agrégées, c'est l'exposer à l'érosion.
On dit beaucoup que le labour n'est pas une bonne chose.
Alors, c'est très discuté, c'est très controversé.
Enfin, on le dit depuis peu, d'ailleurs, bien sûr.
On le dit depuis peu, en fait. Et on s'aperçoit depuis quelques dizaines d'années qu'on peut, dans certaines conditions, cultiver en travaillant relativement peu le sol, en tout cas en évitant de le retourner. Et de manière générale, en le travaillant très peu. Ce qui présente un intérêt, déjà pour les agriculteurs, c'est de limiter le temps de travail. Alors, pourquoi critique-t-on le labour? Un certain nombre d'organismes du sol sont très sensibles au labour, ne supportent pas ce retournement, finalement la destruction périodique de leur habitat. Maintenant, voilà, le labour peut être pratiqué, le travail, il y a toute une diversité de manières de travailler le sol et on peut le travailler en réduisant les impacts négatifs sur la biodiversité. Oui, les vers de terre, ça n'aime pas trop le labour.
Et si l'on revient alors au climat, donc vous l'avez dit, cela contribue au cycle du carbone parce qu'il stocke le carbone, c'est bien cela?
Il y a 2 à 3 fois plus de carbone dans les sols de la planète qu'il n'y en a dans l'atmosphère. Alors quand vous avez un gros réservoir et un petit réservoir à côté, le gros réservoir, il peut influencer le petit réservoir. Donc dès qu'il y a perte de carbone du sol, par exemple déforestation...
Carbone qui est fixé par les végétaux.
Qui est fixé par les végétaux.
La photosynthèse.
Tout à fait. Voilà, c'est ça. Et qui ensuite arrive sous forme de racines mortes, de parties aériennes mortes qui arrivent dans les sols, qui lentement, très lentement, biodégradé par les organismes du sol. Le carbone dans le sol, il reste sous forme de molécules organiques pendant, je dirais en moyenne, c'est plusieurs dizaines d'années, c'est plutôt 50 ans, 70 ans. Mais certaines molécules vont rester même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps. Et donc, ce cycle du carbone qui passe par les sols, une des sorties, c'est le CO2. C'est le carbone qui a été respiré par les organismes du sol sous forme de CO2. Et si ce flux augmente, on va aggraver l'effet de serre. Si ce flux diminue, on va diminuer l'effet de serre. Et diminuer ce flux, c'est stocker plus de carbone dans les sols.
Alors, ce qui est très impressionnant dans ce que vous nous racontez, Claire Chenu, c'est qu'on a le sentiment que les... On n'en a pas pris conscience de tout cela. On dit vous le dites vous-même, c'est vraiment quelque chose qui est assez méconnu.
Oui, on marche.
Et vous parlez de formation au sol qui serait bien utile à tout le monde.
Oui, on marche sur les sols sans absolument savoir qu'on marche sur
un
milieu, sur un écosystème, sur un milieu rempli, dans lequel habite une très grande diversité d'organismes. Oui, je pense qu'une sensibilisation au sol est très importante et éventuellement une formation. Au sol, ça a été la vertu de l'année internationale des sols. Vous dites qu'elle a été peu connue du point de vue des sols, ça a été un tournant.
Je parle du grand public, pardon,
bien sûr. Mais du point de vue, la vision que nous avons, nous, travaillant sur les sols, ça a été vraiment un tournant. C'est-à-dire que maintenant, on commence à parler des sols, la preuve.
Bien sûr.
Vous m'invitez. Mais
est-ce que, par exemple, la FAO, donc l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture, a engagé de nouvelles recherches ou peut-être à donner de nouvelles directives concernant la préservation des sols après cette fameuse année.
Alors,
c'était 2015.
Ce qu'a fait par exemple la FAO, c'est d'édicter des règles pour une bonne gestion des sols, pour une gestion durable des sols, après beaucoup de négociations, de discussions entre les différents pays. Ce qu'essaie de promouvoir aussi la FAO, c'est de... ils travaillent beaucoup en termes de sensibilisation. Là, ils ont organisé un grand colloque sur l'érosion cette année. L'année prochaine, ce sera sur la biodiversité des sols, pour sensibiliser, faire connaître, et puis entraîner un peu tous les pays dans un effort collectif.
Les polluants, les intrants, les engrais en font partie? Les désherbants, tout ce dont on parle tant aujourd'hui?
Les pesticides font, la contamination, c'est une des dégradations des sols. Voilà, oui. Elle existe. Alors, il y a 2 types de contamination. Il y a celle qui est liée aux activités industrielles. Elle est très localisée. Ce sont des niveaux très, très élevés de contamination, des concentrations très fortes en polluants. Et puis, il y a la contamination diffuse liée aux activités agricoles, d'une agriculture s'appuyant fortement sur des molécules de synthèse.
À quoi on peut ajouter quand même, Claire Chenu, l'élément un peu sociologique et même culturel? Les sols contribuent aussi à la beauté de nos paysages?
Tout à fait. La couleur des sols.
C'est un point sur lequel vous assistez également.
Ah oui, moi j'y suis sensible, effectivement. Le sol, sa couleur est en partie due à la matière organique, l'humus humain. Hein, c'est dans les sols que nous sommes inhumés. Donc il y a une relation assez forte entre les valeurs de nos sociétés et le sol, qu'on a un petit peu oublié, mais qui était beaucoup plus prégnante il y a quelques dizaines d'années ou siècles même.
Y compris le lien au passé, c'est la mémoire aussi, c'est
l'empreinte.
Oui, c'est
alors dans les sols sont préservées les traces de nos activités antérieures. Hein, là où je travaille, dans le laboratoire où je travaille, il y a une petite équipe de l'INRAP, l'Institut d'archéologie préventive, qui viennent pour apprendre à mieux identifier, dater, caractériser les traces d'activité que l'on trouve dans les sols.
Claire Chenu, si l'on vient maintenant à la question de l'aménagement du territoire, là on fait un peu le passage entre le milieu rural et le milieu urbain, où en est la recherche à ce sujet ? Je veux dire, quel est le lien entre l'aménagement du territoire et la recherche ? Parce que si l'on vous suit, il n'est pas évident.
Alors,
est-ce qu'on vous consulte avant les aménagements des territoires ?
On ne nous consulte pas, mais je comprends à ce stade qu'on ne nous consulte pas. Mais effectivement, il est important aujourd'hui de réduire l'artificialisation, de réduire la transformation d'espaces agricoles, en particulier en construction, en voie de circulation. Donc de raisonner, dans un plan local d'urbanisme, dans un schéma de cohérence territoriale, de raisonner quel sol, où mettre les constructions, où mettre les lotissements, où mettre les voies de circulation. Et actuellement, on ne tient pas du tout compte des sols, alors qu'on pourrait. On pourrait, parce que les sols n'ont pas tous la même aptitude à leurs différentes fonctions. Mais il est vrai que les gestionnaires de l'espace, hein, urbanistes, aménageurs, collectivités locales, n'ont pas d'outils pour cela aujourd'hui. Ils n'y sont pas sensibilisés, premier point, donc ça, on essaie d'y travailler, et puis ils n'ont pas les outils. Donc il y a pas mal de recherches actuellement pour essayer de développer des indicateurs de la qualité des sols, des indicateurs de l'aptitude des sols à faire pousser des plantes, à infiltrer l'eau, voilà les différentes fonctions que l'on peut attendre des sols. Et à partir de là, on pourrait espérer avoir un urbanisme qui consomme moins de sols.
Il sera un petit peu plus cohérent,
voilà, un peu plus cohérent, qui préserve. Il y a un objectif, le plan biodiversité a pour objectif zéro artificialisation nette, c'est-à-dire réduire le plus possible la consommation nette d'espace.
C'est le grand défaut en France en ce moment, l'artificialisation, c'est le plus gros problème pour ce qui concerne les sols.
C'est la principale dégradation concernant les sols en France, oui. Alors un chiffre que nous donnons souvent, hein, c'est que donc les espaces artificialisés, ce sont bien sûr les constructions, les voies de circulation, mais c'est aussi les chemins, c'est aussi les parcs urbains, c'est aussi les bandes de pelouse qu'il y a autour d'un bâtiment. On estime qu'en 10 ans, à peu près un département est artificialisé en France.
Les bandes de pelouse, c'est pas bien ?
Si, c'est bien. Mais je veux dire, ça fait partie d'espaces artificialisés, parce que souvent la terre a été remuée. Et puis, vous pouvez avoir 2 mètres carrés de pelouse. Donc, 2 mètres carrés dans lesquels vous avez du sol, éventuellement qu'il y a un nouveau sol, parce qu'on a mis de la terre, on a mis du compost. Mais, les vers de terre, par exemple, ils pourront pas circuler. Comment voulez-vous qu'ils aillent au prochain carré de pelouse s'il y a 3 mètres de béton qui les sépare?
Et cela, évidemment, c'est pas pris en compte, pour l'instant du moins.
Non.
J'aurais pu naître vers de terre. Pourquoi pas descendre d'un coléoptère, tralala. J'aurais pu vivre sans mon phare, pianissimo, en creusant d'être sous la terre, incognito, même, voilà. Avec mon âme. Cœur sans dessous dessus. J'aurais pu être un lion superbe, dangereux, bronzer ma vie sous des soleils paresseux, échanger chaque jour de forme sans histoire, et faire le bien comme le mal sans le savoir, même, voilà. Avec mon âme animal, amour perdu, cœur sans dessous dessus.
France Culture, matière à penser, Dominique Rousset.
Oui, il est question de l'éloge des sols, il est question de vers de terre, on vient de l'entendre. Et je suis en compagnie de Claire Chenu qui enseigne les sciences du sol à AgroParisTech et le laboratoire de l'INRA également, et qui défend donc beaucoup cet intérêt pour les sols. Nous aurions beaucoup à apprendre les uns et les autres, et surtout nos politiques, nos aménageurs, nos architectes éventuellement. Et c'est un fait partie du travail que vous soutenez, hein, Claire Chenu. Vous essayez de créer davantage ce lien entre la recherche et l'aménageur.
Oui, ça fait partie en tout cas d'activités que j'ai, d'essayer de rassembler, de faire s'échanger tous les, finalement, les gestionnaires des sols, les utilisateurs des sols qui sont extrêmement divers, agriculteurs, maires d'une ville, entreprises chargées d'un réseau d'assainissement. Voilà, il y a une très très grande diversité de personnes finalement qui ont affaire au sol et qui peuvent avoir des objectifs opposés. Et donc, il est important d'avoir des forums où on puisse se rencontrer, échanger et que soit développée la conscience de l'importance des sols. Je pense qu'il y a pas mal d'arbitrages environnementaux pour lesquels les sols sont finalement une plateforme assez extraordinaire.
Pour l'eau, par exemple, revenons un peu sur la question de l'eau qui est extrêmement importante. Et puisqu'on sait qu'il y a des problèmes de sécheresse, y compris dans nos pays tempérés, la grosse difficulté se situe où en ce qui concerne le sol par rapport à l'eau ?
Dans le monde, je pense que c'est essentiellement la sécheresse. Peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est essentiellement la sécheresse qui est un problème et la désertification. Dans un pays comme la France, eh ben, nous connaissons les deux, hein, avec une année sèche l'année dernière, par exemple, et puis des inondations dont on entend, j'ai plusieurs fois entendu dire que quand on a des inondations, qu'elles sont dues au changement climatique, et en fait, elles sont beaucoup, beaucoup dues à l'imperméabilisation des sols, à l'artificialisation, à l'imperméabilisation. Oui, l'eau, elle court, elle sur des surfaces bétonnées. Et on ne sait pas la retenir, alors que si le sol est toujours laissé, on va dire, ouvert à la surface, elle peut s'infiltrer.
Ce qui nous amène à parler de l'agriculture en milieu urbain. Gadget, opération sympathique d'écologistes, ou mieux que ça, de votre point de vue ?
Alors,
végétaliser
les
villes, les cultures sur les toits des villes. Il y a beaucoup d'expériences, et pas seulement en France, bien sûr. On parle de Paris en ce moment, d'ailleurs, mais il y a d'autres villes qui ont tenté l'expérience, notamment aux États-Unis. Je crois que la ville de Detroit a été tout à fait pionnière en la matière.
Tout à fait. Alors, je pense que la situation est assez contrastée sur les différentes régions du monde. Je pense que dans un certain nombre de régions du monde, et j'ai pas mal entendu parler de Dakar, de Antananarivo, à Madagascar, où l'agriculture urbaine apporte vraiment un complément alimentaire. Ça fait partie de la fourniture d'aliments pour des familles. Dans notre pays et dans une ville comme Paris, pour moi, l'agriculture urbaine, sa mission, sa fonction, c'est essentiellement de reconnecter les citoyens à la nature, en permettant d'embellir le cadre de vie, déjà. Tout simplement, en permettant d'avoir des espaces agréables, en apprenant d'où viennent les légumes, qu'il faut du sol, que ça pousse, qu'il faut les arroser, qu'il faut apporter de la matière organique, et puis en permettant d'avoir des loisirs. En connexion avec la nature. Pour moi, c'est la principale fonction.
Mais vous ne parlez pas de stocker le carbone dans ces cas-là, ça suffira pas ? Faudrait végétaliser
davantage. Non, les sols des villes ne suffiront pas à peser sur les stocks de carbone d'un pays. Là où il y a de la marge de manœuvre, là où il y a du potentiel de stockage, c'est dans les sols agricoles. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne soit pas bon que les sols des villes soient plus riches en carbone. Mais souvent ce sont des... En plus, l'agriculture urbaine, elle a un autre intérêt, c'est de s'intégrer, de s'intégrer dans des circuits courts. Recycler localement, composter, recycler localement les composts pour construire des sols dans les interstices de la ville.
Qu'appelle-t-on un sol de grande valeur à l'état naturel ?
Un sol de grande valeur, c'est un sol qui est capable de réaliser les différentes fonctions qu'on attend de lui. Définition peut-être très orientée vers l'homme, et qui est capable d'encaisser une sécheresse, d'encaisser des événements un peu extrêmes. Donc c'est un sol qui fonctionne et qui a une certaine résistance et résilience.
Mais si pour atténuer le changement climatique, on doit planter telle ou telle espèce, ou est-ce que les sols demandent davantage?
Alors, pour atténuer le changement climatique, les sols représentent un volant d'action important. On pourrait stocker plus de carbone dans les sols du monde, dans les sols agricoles en particulier du monde, et même dans un pays comme la France, par des pratiques agricoles différenciées. Par exemple, d'avoir des plantes, de couvrir tout le temps le sol par de la végétation. Donc, plus de photosynthèse, plus de carbone fixé à partir de l'atmosphère, plus de carbone qui rentre dans le sol.
On ne fait plus les terres nues, comme on voit parfois un champ complètement nu.
Non.
Ça, vous le déconseillez.
Il faut couvrir le sol. Et en plus, ça protège le sol de l'érosion. Donc, ça a plein d'effets bénéfiques. Il y a plein de co-bénéfices.
Mais c'est plus de travail pour l'agriculteur, non ?
Les cultures intermédiaires, oui, c'est plus de travail pour l'agriculteur, tout à fait. Alors, la semaine dernière a eu lieu la restitution d'une étude qui a été menée par l'INRA, qui a associé une trentaine d'experts de différents organismes pour essayer d'estimer le potentiel de stockage de carbone dans les sols agricoles français, par exemple. Voilà. Et c'est de voir, si on implantait des cultures intermédiaires, combien est-ce que ça stoppe ? Où est-ce qu'on pourrait en implanter ? Combien est-ce que ça coûte ? Agroforesterie, combien est-ce qu'on pourrait stocker ? allonger la durée des prairies. Les experts ont envisagé donc toute une série de pratiques agricoles qui permettraient d'augmenter le stockage de carbone dans les sols. Alors, c'est pas... ça ne va pas régler l'effet de serre, hein. Ça ne va pas régler notre problème de changement climatique, mais c'est une action de plus. La priorité, c'est de moins émettre. La priorité, c'est d'éviter la consommation d'énergie fossile.
Mais donc, pourraient profiter à terme les agriculteurs, parce que je vois venir les oppositions si on leur demande type de culture.
Profiter les agriculteurs, oui, à cause des co-bénéfices. Parce qu'un sol qui est plus riche en carbone, c'est un sol qui est plus riche en matière organique, c'est un sol qui est généralement plus fertile, avec une plus grande biodiversité. Et puis, il y a d'autres avantages pour l'agroforesterie.
L'agroforesterie exactement?
Alors, l'agroforesterie, c'est avoir des arbres dans les champs, des arbres ou des buissons dans les champs. L'agroforesterie, ça permet par exemple dans certaines régions, par exemple en région méditerranéenne, d'atténuer les températures très chaudes en été. Donc on crée un microclimat sous les arbres qui est favorable à la culture. Les agriculteurs n'ont pas, c'est pas leur souci de stocker du carbone dans les sols, c'est pas leur problème, et je comprends tout à fait.
Bien sûr.
Donc c'est par les avantages de la matière organique des sols, en termes de fertilité des sols, et puis par les autres avantages des pratiques agricoles qu'on peut espérer augmenter les stocks de carbone des sols via l'agriculture en France.
Vous dites que un sol ne meurt pas, en principe, mais la formation des sols est très très lente, je crois que c'est très très peu de centimètres par an.
C'est de l'ordre sur le millimètre par siècle, c'est de ça dont là, donc c'est très très long. Hein.
Une fragilité énorme.
Une très grande fragilité. Alors peut-être reprendre, un sol ne meurt pas, c'est-à-dire qu'un sol sur lequel poussent des plantes, il est forcément vivant. Par contre, si vous bétonnez un sol, alors là, il meurt. Là, il n'y en a plus. Je veux dire, il ne voit plus la végétation. Il n'est plus cet épiderme vivant de nos continents.
Pour revenir au climat.
Aux échelles de temps humain, c'est une ressource qui n'est pas renouvelable. La priorité, c'est de préserver les sols.
Le lien avec le climat, donc refaisons-le un petit peu plus directement. Où sont les priorités?
C'est de réduire nos émissions. Et pour l'agriculture, par exemple, c'est de réduire la consommation de fertilisants azotés de synthèse, ce qui consomme beaucoup d'énergie fossile pour la fabrication de ces engrais azotés, et puis qui se traduit par des émissions de N2O, d'oxyde nitreux, qui est un puissant gaz à effet de serre.
Alors si on parle de végétalisation des zones urbaines, peut-être que ça paraît un petit peu plus anecdotique, l'air chenu, mais il y a cet exemple des toits potagers. Je crois que beaucoup de villes font cette expérience. Pour vous, les chercheurs, ça n'est pas seulement pour faire joli,
Seulement pour faire joli. Effectivement, nous avons mené depuis quelques années une expérimentation sur les toits d'AgroParisTech, dans lesquels nous avons installé des bacs de sol que nous avons créés nous-mêmes, je vais vous expliquer, pour y faire pousser des légumes. Et puis notre idée était d'évaluer ce type de jardin, Et puis, moi, un autre intérêt que j'y ai, c'est... Donc on essaie d'y fabriquer des sols, ces bacs. Qu'est-ce qui se passe, hein? Comment ça évolue? Alors déjà, savoir que pour une ville comme Paris, il y aurait à peu près 100 hectares de toits suffisamment plats, une surface suffisante pour les végétaliser. Qu'est-ce que nous avons fait sur les toits d'AgroParisTech? Nous avons installé des bacs en bois, et puis dedans, nous avons apporté des déchets de la ville. L'idée, c'était de construire des sols. On ne va pas monter du sol sur les toits, ça pèse lourd. Hein.
C'est ça, on n'avait pas monté de la terre.
On n'a pas monté de la terre et on a fait exprès, c'est-à-dire qu'on a pensé au problème de portance, qui va être une des principales contraintes de la végétalisation des immeubles, des toits. Alors, dans certains bacs, il y avait de la brique concassée, c'est pas si lourd que ça. Et puis, sinon, nous avons utilisé des composts de déchets verts, composts de biodéchets, donc c'est les déchets des cantines, par exemple. Et nous avons même utilisé un déchet, on pourrait dire secondaire, vous savez peut-être qu'à Paris, ça existe ailleurs, mais à Paris, pardon, il y a des entreprises qui récupèrent le marc de café chez les cafetiers. Et qui font pousser des champignons, des pleurotes, excellent les pleurotes, sur ce marc de café. Et nous avons récupéré le marc de café une fois que les champignons avaient poussé. Donc c'est un déchet de deuxième génération. Donc on a mis ça dans nos bacs. Donc imaginez des bacs, hein, comme des palettes, construits avec des palettes, sur lesquelles on met différentes couches de compost, de ces déchets. Et nous les avons utilisés pour faire pousser des légumes, donc des tomates, des haricots, des salades, toute une variété de légumes. Et nous avons voulu évaluer ça. Alors d'abord, on a évalué la quantité de légumes produits. On est à peu près équivalent à ce qui se passe en maraîchage biologique de plein champ. Nous avons évalué la qualité des aliments, teneur en contaminants. On est en ville quand même, on a fait attention à ça. On était en dessous des normes dans tous les cas, mais C'est, à mon avis, un point de vigilance.
Aucun risque de pollution, oui, c'est ça, quand même.
Mais oui, on est en ville, donc quand même. Toutes les particules, elles arrivent. Mais notre jardin, il est dans le 5e arrondissement, près de la rue Mouffetard. Il n'est pas contre un périph. Donc, c'est, à mon avis, un point de vigilance. Et puis, nous avons évalué les autres fonctions que peuvent avoir ces sols. Et nous avons vu, par exemple, ça permettait d'installer des bacs sur le toit d'AgroParisTech, permettait de réduire de 80% l'eau qui part dans les gouttières.
Ah oui, ça, c'est très important.
Et ça, c'est très important. C'est énorme. En termes de gestion de l'eau, c'est extrêmement intéressant. Il y a des collègues qui sont en train de mesurer maintenant le microclimat. Donc, est-ce qu'effectivement, on rafraîchit la ville avec des résultats pour le moment intéressants, mais je ne serais pas capable de vous donner de chiffres là-dessus. Et puis, nous nous intéressons à la biodiversité. Nous quantifions toute une palanquée de petites bestioles, d'animaux et de micro-organismes dans ces toits. Et puis, autre fonction qu'on se doit, c'est une manière de recycler sur place les déchets de la ville sans les transporter. Porter loin. Pour le moment, expérimentation très, très positive. Et puis alors, autre chose qui m'intéressait, c'est les sols. Normalement, ça se forme très, très, très lentement. Et en quelques mois, nous avons fabriqué des sols avec des composts.
Alors, ça veut dire que ça pourrait se faire à grande échelle, dans un sol très dégradé. On pourrait fabriquer des sols avec des déchets, comme vous les avez mentionnés.
Alors,
on n'en manque pas des déchets, donc c'est une piste intéressante.
C'est une piste très intéressante. Hein.
Et c'est, y compris à grande échelle.
Y compris à grande échelle. Ce qui va peut-être vous sembler surprenant, c'est que ce qui peut être limitant, c'est la quantité de déchets. Par exemple, en France, alors dans les sols agricoles, il est vraiment important de reconstituer la réserve de matière organique de ces sols. Alors, une manière de le faire, j'ai dit, c'est de faire pousser des plantes, donc photosynthèse, carbone est fixé, il rentre dans le sol. Une autre, c'est d'apporter des matières organiques résiduaires, et par exemple, les composts de déchets verts, les composts de biodéchets. Donc, c'est une manière d'entretenir la fertilité des sols. Et puis, dans certains cas, on peut, si on en apporte des quantités plus importantes par unité de surface, on peut effectivement restaurer des sols, construire des sols. Vous savez, c'est ce qu'on fait en ville quand on construit des parcs en ville, quand on installe un jardin. En général, on apporte des quantités. Souvent, il y a de la récupération de terre qui vient de chantier. Donc souvent, en fait, ce sont des sols agricoles sur lesquels on a construit des lotissements ou des routes. On va récupérer la terre, on appelle ça terre végétale. Et puis, on apporte des quantités plus ou moins importantes de compost. Donc ce sont déjà des pratiques qu'on connaît.
Connaît qu'il suffit d'étendre.
Voilà. Et je pense que ça serait, il y a vraiment quelque chose à faire, en particulier dans le lien, sur les flux d'éléments dans les villes, promouvoir un recyclage à courte distance des déchets de nos activités, en particulier les déchets alimentaires, les déchets verts. Et puis même pour quelque chose d'important en termes de relations ville-campagne, les villes drainent tous les aliments qui arrivent, les matériaux qui arrivent, produisent des déchets. Et bien, c'est retourner ces déchets dans les sols des zones périurbaines.
Oui, ça paraît évident et pourtant pas si facile à mettre en place.
Ça
en
paraît évident, mais on peut vraiment, vraiment mieux faire.
On peut mieux faire. On a parlé de la ville de Detroit, aux États-Unis. Alors, ce qui est intéressant dans l'histoire de cette ville, parce que ça pourrait se reproduire ailleurs, c'est que c'est une ville, comme on le sait, qui a été en déshérence très, très, très forte du fait de l'écroulement complet de son industrie, notamment automobile.
Tout à fait.
Et qui a réussi à renaître, notamment avec des expériences de végétalisation, avec d'autres choses aussi.
C'est une ville sinistrée, et ce qui est assez intéressant dans l'agriculture urbaine dans cette ville, c'était effectivement de permettre une production locale de légumes, pas anecdotique, là je pense, là on n'est pas simplement dans la connexion à la nature.
Pour le coup, on a nourri la population, comme on pourrait le voir dans deux villes.
Complément. Voilà.
Complément,
voilà,
bien
complément,
sûr.
Complément, pas
comme
nourrir
on peut le voir dans
la,
des villes
la
de pays moins développés.
Oui. Et puis, une reconnexion, d'abord une occupation, une reconnexion, et puis un projet, des micro-projets, et finalement des projets collectifs. Les sols peuvent avoir un rôle important.
Social.
Social. Actuellement, nous travaillons sur un projet sur les sols des micro-fermes urbaines. Micro-fermes urbaines, ce sont des fermes qui produisent des légumes, mais leur vocation première n'est pas de vendre les légumes. C'est toujours associé à un autre projet. Par exemple, nous, AgroParisTech, on pourrait dire, nous sommes une micro-ferme urbaine, notre autre projet, c'est la recherche.
Avec vos toits végétalisés.
Voilà, oui.
D'accord.
Et il y a de ces micro-fermes même qui sont des projets associés à des collèges. Donc là, il y a une fonction éducative. Et c'est assez extraordinaire de voir comment l'agriculture urbaine, comment finalement aussi le travail du sol, au sens d'entretenir le sol, semer, désherber, a un caractère éducatif et puis crée du lien et peut devenir un projet collectif.
Est-ce qu'il ne vous semble pas, Claire Chenu, dans tout ce que vous nous dites, alors bien sûr, il y a l'avancée de la recherche, qui sont parfois des recherches parfois très pointues, mais qu'au fond, on revient à des pratiques bien plus anciennes que l'on connaissait depuis toujours et que l'on avait un peu oubliées.
C'est un peu ce qu'on
dit. On peut le dire dans d'autres
domaines. On l'entend beaucoup. Je pense que ce qui est différent, on pourrait prendre par exemple l'exemple de l'agroforesterie. Il y avait dans beaucoup de prés, en Normandie par exemple, très classique, des prés vergers qui ont pratiquement disparu, il y en a beaucoup moins. Et l'arbre était beaucoup plus présent dans les parcelles agricoles, il y avait des haies. Donc est-ce que c'est revenir en arrière? C'est certainement retrouver des pratiques, des modes d'aménagement qui réintègrent la nature et qui tiennent compte de l'écologie, enfin du fonctionnement de l'écosystème. C'est pas tout à fait... En même temps, ça n'est pas complètement revenir en arrière. Par exemple, l'agroforesterie qui se développe aujourd'hui, pour que ce soit viable, pour que les agricultures le mettent en place, il faut que ce soit compatible avec l'agriculture moderne et par exemple que ce soit compatible avec la mécanisation. Donc, tout simple, c'est la recherche de quels sont les espacements entre rangs d'arbres optimaux, tout en sachant qu'on veut qu'une moissonneuse-batteuse, par exemple, puisse passer travers, entre les deux. Ce sont des principes qu'on a oubliés. On a oublié les principes. Voilà, l'intérêt de l'arbre dans une parcelle agricole, on l'a oublié. Or, il est multiple.
Mais il peut y avoir quand même des techniques modernes qui permettent de l'optimiser.
Et on l'adapte aux exigences de l'agriculture actuelle.
Pour les pays en développement, là, on a beaucoup parlé du cas de la France et puis de pays développés. Vous avez un petit peu évoqué Madagascar, par exemple. Mmh. Vous avez parlé dans un cas plus sombre de l'Indonésie, que l'on déforestait à grande vitesse. Mais restons sur des cas plus positifs. En Afrique aussi, il y a d'assez bonnes expériences, je crois, de revégétalisation. On essaie de sauver les sols, comme évidemment les sols très désertiques.
Alors, il y a un
d'autres qui ont été, où la déforestation est très sévère aussi, parce qu'il faut bien se chauffer et brûler.
Oui, il y a un problème de désertification en Afrique et de dégradation des sols qui est très, très important. Avec alors, c'est un domaine que je connais beaucoup moins que les sols tempérés, que les situations d'agriculture tempérée, mais avec un certain nombre d'expérimentations pour essayer de développer des pratiques agroécologiques, de remettre là aussi, de développer l'agroforesterie, de restituer les résidus de récolte au sol, mais avec des compromis pas faciles à trouver. Par exemple, moi, je peux vous dire, en tant que spécialiste des matières organiques, qu'il est bon de restituer les pailles après la culture, une culture de céréales, de restituer les pailles au sol. De les remettre sur le sol, parce que ça fait du carbone, ça va enrichir le sol en matière organique. Mais ces pailles, elles peuvent avoir d'autres usages. Ça peut être l'alimentation du bétail. Et qu'est-ce qu'il faut choisir? Et dans certaines régions du monde, dans certains pays, les bouses des vaches, dont aussi vous dire, il faut les restituer au sol, c'est important, c'est le combustible domestique. Comment faire des arbitrages? Vous voyez, là, on dépasse. Ce sont des domaines où, finalement, le choix des bonnes pratiques pour les sols fait intervenir tout à fait autre chose que la connaissance des sols et la connaissance des effets de ces pratiques sur les sols. Ce sont des considérations sociales, économiques, temps, de culture, qui nous échappent. Et c'est ça qui fait qu'il est si difficile de changer les pratiques agricoles et qu'il est si difficile finalement de restaurer les sols, même si en termes de principe ça peut sembler assez simple. Par exemple, quand on dit il faut enrichir les sols en matière organique, il faut que...
Tout le monde est d'accord, mais après...
Tout le monde est d'accord.
Les animaux d'élevage, Claire Chenu, est-ce que leur lien à l'enrichissement des sols, à leur fertilité, voire à leur dégradation est important?
Est important. Alors, en termes de dégradation, parce que s'il y a surpâturage, trop d'animaux par unité de surface, ils vont manger toute l'herbe, ils vont manger tout, et donc il n'y a plus grand-chose qui est restitué au sol. Et puis, le piétinant peut tasser considérablement les sols, particulièrement en conditions humides. Un sol, ça se tasse beaucoup plus en conditions humides qu'en conditions sèches. On entre avec un tracteur sur un sol, si possible, quand le sol est portant, donc il n'est pas trop humide. Donc, les animaux d'élevage, oui, peuvent dégrader les sols. Par contre, leur déjection, s'ils sont à l'herbage, reviennent au sol. Le fumier, leur bouse, vont enrichir le sol en matière organique.
Est-ce que vous êtes optimiste, Claire Chenu, pour conclure sur ce qui peut se passer maintenant? Avez-vous le sentiment qu'on prend un peu mieux la mesure de ce problème-là? Je dis ce problème parce qu'il l'est devenu.
Sols, oui, je suis optimiste. D'abord, j'ai vu vraiment un changement très important depuis l'année internationale des sols. Le sujet des sols est encore très mal connu, mais c'est nettement mieux qu'il y a 5 ans. Là, je suis optimiste. Je suis convaincue que les sols sont un bon, on va dire, dans tous les sujets environnementaux, sont un sujet qu'il faudrait plus mettre en avant parce que ça fait discuter différents acteurs d'un sujet. Par exemple, je venais de vous parler de résidus de culture. Qu'est-ce qu'on en fait ? On les donne au bétail, on les restitue au sol, on les utilise comme combustible, on les utilise dans la construction, en Inde. Voilà, on utilise les pailles dans la construction dans certaines régions. Pas mal d'arbitrage. Par exemple, en région, ça peut être aussi les résidus de culture, les pailles. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on les méthanise ? Produit l'énergie ? Est-ce que c'est un agrocarburant ? Quelles conséquences ça a sur les sols ? Et puis, je trouve que c'est un bon sujet à partir duquel j'ai un peu l'impression qu'avec un sol, on déroule une pelote. Et ça peut faire parler des acteurs de la société très différents autour d'un sujet et vraiment avoir à discuter d'arbitrage.
Êtes-vous nombreux à faire de la recherche sur les sols dans d'autres pays ou...
C'est un sujet qui prend de l'ampleur. Quand moi, j'ai choisi de m'orienter vers la science du sol, donc il y a longtemps, il y a plus de 30 ans, je me souviens que mes camarades me regardaient vraiment que c'était un sujet has-been, complètement vieillot. Moi, ce qui m'intéressait, c'était du minéral et du vivant. Je voulais être à l'interface du monde de la géologie et du monde des êtres vivants, et c'est pour ça que j'ai choisi. Et en tout cas, j'ai pas choisi pour les enjeux environnementaux ou alimentaires associés au sol. J'en étais pas encore consciente moi-même.
Oui, qui était beaucoup moins fort à l'époque.
Qui était beaucoup moins fort à l'époque. Alors que ces enjeux, ils sont en train de
vraiment l'urgence d'émerger. Climatique vous porte quand même, oui.
Et l'urgence climatique nous porte. Et je suis allée en Allemagne, à Bonn. À Bonn siège la Convention cadre sur le climat. Et l'agriculture est considérée dans les négociations climatiques comme un émetteur, toujours négatif. Et finalement, peu considéré, c'est-à-dire qu'on se préoccupe peu de quel changement de l'agriculture pourra avoir un impact sur le climat et de comment accompagner ces changements, comment les provoquer. Et la convention cadre, la CNUC, la convention cadre sur le climat, a décidé de promouvoir un travail spécifique sur l'agriculture. Et je suis allée à un séminaire sur les sols et sur le carbone des sols où il s'agissait d'expliquer à des négociateurs, d'échanger avec eux sur la possibilité d'atténuer le changement climatique en stockant plus de carbone dans les sols. Nous, dans la communauté scientifique, en ce moment, je ne vais pas dire que nous nous battons, mais il y a beaucoup de travaux sur essayer d'estimer combien de carbone en plus pourrait stocker les sols d'une petite région, les sols d'un pays. La France vient de faire ce travail. Combien pourrait stocker les sols d'un continent ? Donc, discuter de ces différentes estimations. Est-ce que c'est anecdotique ? Non, ça ne l'est pas. Enfin, je peux déjà vous répondre, ça ne l'est pas. Mais de combien ça pèse ? Quelles pratiques promouvoir ?
Et à partir de là, quelle décision ?
Et à partir de là, quelle décision ?
On peut prendre la condition que les politiques s'y intéressent aussi.
Justement, un des enjeux de ce travail, c'est déjà de convaincre les négociateurs, dont on pourrait dire sont peut-être plutôt des techniques que des politiques, mais qui, eux, sont en relation avec les politiques.
Eh bien, c'est tout le bien que l'on vous souhaite, faire mieux connaître tous ces sols. Merci infiniment, Claire Chenu. On espère qu'on va progresser effectivement dans ce domaine très intéressant. Et on pourra, avec avantage, retrouver tous vos travaux sur notre site, franceculture.fr.
Merci.
Merci à vous. Nous poursuivrons demain dans notre toute dernière série de la saison. Tout va très vite, une année d'accélération. On vient de voir comment, en termes de biodiversité, là aussi, on avait subi une accélération cette année de perte de biodiversité. Merci à notre petite équipe Anne-Laure Chanel avec Philippe Mercher ce soir qui réalisait l'émission. Sandrine Chaperon, Catherine Donnet pour la documentation, la préparation. Merci à elle et merci aussi à Joséphine Lampreya, notre stagiaire. Très très bonne soirée à tous, à demain.